Que Dieu est bon, nous avons du sang. Là, je sais que je suis en direct. Nous avons de l'électricité, nous avons du son, nous avons la caméra, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chante Alléluia! Nous avons un beau local, nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons de l'eau, merci pour l'eau. Nous avons un beau piano. Nous avons un système de son qui fonctionne. Nous avons des bien-aimés disposés qui sont au poste pour pouvoir transmettre ce moment avec la parole de Dieu. Donc, nous avons tout ce qui est nécessaire pour avoir un bon moment ensemble dans le Seigneur, dans sa parole. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette étude sur le service en temps de défi. Et une année qui s'achève, qui a été remplie de défis, qui a eu beaucoup également d'opportunités. Je pense que ça a été une année riche en apprentissage aussi, riche en leçons à apprendre et à retenir, et qui vont juste nous permettre d'aller encore plus loin avec le Seigneur et de faire encore mieux pour et encore plus pour lui. Donc, bonsoir à tout le monde, ceux qui sont déjà connectés, frère Guy, papy Jacomin, Mana Flori, ben c'est ce que je vois ici, mais je sais qu'il y en a d'autres. Alors, à vous tous, je vous salue chaleureusement dans l'amour de notre Seigneur Jésus, et nous sommes contents de pouvoir avoir ce moment. Je tiens à remercier également la participation de tous et chacun, bon, du moins de ceux qui se sont qui sont disposés, qui ont pu prendre part à l'Assemblée générale qui a eu lieu hier. Aussi, c'était un événement nouveau pour le AJC. Et il y a eu beaucoup de nouveautés hier, mais je pense que avec la patience, la charité les uns envers les autres et l'aide du Seigneur, bien, on a été en mesure de pouvoir tenir cette assemblée, de pouvoir partager dans le fond un peu la vision, qu'est-ce qui a été fait cette année, un peu revenir sur 2019 et voir à quel point l'année 2020 a été toute une année, parce que beaucoup de choses qui étaient au programme n'ont jamais eu lieu. Mais par contre, nous avons quand même eu un programme, et je pense que c'était le programme du Seigneur pour son Église. Alors, on doit être reconnaissant parce que le Seigneur est avec nous et nous continuons d'avancer. Nous avons eu des âmes cette année qui sont venues au Seigneur de tout âge, de toute culture, de différentes cultures. Nous avons eu des gens qui ont été touchés, des gens qui ont entendu la parole aussi pour la première fois, des gens qui ont peut-être pas pris de décision maintenant, mais que quelque chose a été déposé dans leur cœur, une semence qui fera son travail. Il y a des gens qui ont décidé de revenir au Seigneur.
Quelque chose a été déposé dans leur cœur, une semence qui fera son travail. Il y a des gens qui ont décidé de revenir au Seigneur. Quelque chose a été déposé dans leur cœur, une semence qui fera son travail.
S'éloigner du Seigneur, s'éloigner de l'Église. On espère que non. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Que cette fois-ci, ils vont rester accrochés au Seigneur parce que le Seigneur a tellement de belles choses pour eux. Alors, Dieu est bon et nous allons continuer dans notre enseignement. Donc, nous allons dans Marc, chapitre 8. Et nous allons lire un verset seulement ce soir. Non pas que l'étude sera plus courte, ben peut-être elle va l'être, mais du moins, on peut voir à quel point la parole de Dieu, elle est riche, elle est profonde. Et on peut tellement apprendre. Donc, Matthieu, chapitre 8, et le verset 34. Nous allons en premier prier, remettre ce temps des mains du Seigneur, et puis par la suite, on va aller dans la parole de Dieu. Alors, remercions le Seigneur pour sa parole, et remettons ce temps entre ses mains. Père éternel, on te remercie, Seigneur, pour ton amour et ta grâce, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta miséricorde. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu demeures en nous, parce que tu es venu nous chercher. Tu nous as attirés par ta lumière, tu nous as ouvert les yeux. Et on te demande ce soir, ouvre davantage nos yeux pour te connaître. Ouvre davantage nos yeux à travers ta parole pour connaître, Seigneur, ton plan, ta volonté, ta pensée, Seigneur. C'est important que nous ayons, Seigneur, une vue claire, une vision, Seigneur, déployée, précise, Seigneur, sur toi, sur ton plan, sur ta volonté. Bénis chaque personne, Seigneur, qui est déjà connectée, ceux qui viendront se joindre à nous par la suite, ceux qui écouteront cet enseignement, Seigneur, en différé, ta bénédiction, Seigneur, soit également avec eux. Nous allons prier dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc, Marc, chapitre 8, verset 34. Dans le fond, on continue avec le chapitre 8 de Marc. Pardon, il y a eu comme ça quelques, depuis 30 semaines, déjà cette semaine c'est la semaine numéro 30, on a eu des fois des passages où est-ce qu'on a dû s'arrêter. Certains passages, on est allé en mode accéléré, à haute vitesse, et dans d'autres, on dirait que le Seigneur nous dit de prendre notre temps et de vraiment aller puiser. Et le chapitre 8, enfin, ça fait plusieurs semaines qu'on est dans le chapitre 8, mais on découvre à chaque semaine de belles vérités pour notre vie, pour notre croissance. Donc, nous allons dans Marc, chapitre 8, verset 34, qui dit « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Puis, donc je répète, « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Remarquez que Jésus appelle la foule. Juste l'événement auparavant, on voit, et c'est dans le fond ce que nous avons vu la session dernière, la semaine dernière, que Jésus était avec ses disciples. Il y avait quand même la foule, mais à un moment donné, Jésus a parlé principalement à ses disciples, donc s'est dirigé à eux. Mais dans le verset qu'on a lu, il rouvre, dans le fond, le discours. Il le rend ouvert à tous. Ce n'est pas juste réservé aux disciples. Donc, qu'est-ce que nous avons vu la semaine dernière? Eh bien, encore une fois, on le répète, et cette semaine encore, on va le répéter, c'est que le point central du chapitre 8, c'est à la fois l'aveuglement, oui, mais c'est aussi l'ouverture des yeux sur des vérités, sur des fondements qui sont cruciaux, qui sont importants, qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Et le Seigneur, c'est précieux comment il le montre, parce qu'on voit différents groupes de gens. Donc, dans le chapitre 8, on voit qu'il y a une foule qui est là, qui suit le Seigneur comme un troupeau de brebis, qu'ils n'ont pas de berger, qu'ils ont besoin d'un sens, d'une direction dans leur vie. À chaque fois que Jésus voit ça, Jésus commence à leur enseigner. Commence à leur enseigner la parole. D'où le point que nous traitons depuis quelque temps, que la parole, c'est cette lumière qui attire les gens à Jésus. Et Jésus, en enseignant la parole, eh bien, il attire les gens. Il essaie de leur ouvrir les yeux pour qu'ils puissent voir l'espoir qu'il y a en lui. Et donc, on voit que à travers ça, que la multitude représente le monde qui est dans les ténèbres, le monde qui est aveugle, qui connaît pas le Seigneur, qui connaît pas c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge, qui vivent dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans la condamnation de leurs péchés, et qu'ils ont besoin de la lumière de Jésus dans leur vie. Nous avons également vu que nous avions vu que dans le fond, également, il y avait les pharisiens qui, eux autres, représentent le croyant, plutôt le religieux, celui qui a une notion de Dieu, mais qui, pour lui, l'attachement à la religion et aux traditions et aux prescriptions à l'intérieur de ce système est plus important que la parole de Dieu, est plus important qu'une vraie communion avec le Seigneur Jésus. Et finalement, le troisième groupe de personnes, ce sont les disciples, et que même les disciples ne comprennent pas, n'arrivent pas à voir ce que Jésus est en train de leur enseigner. Quand Jésus leur parle à propos du levain, de faire attention au levain, et qu'eux autres, ils pensent que Dieu est en train de leur parler, Jésus est en train de leur parler d'un morceau de pain qu'il y avait entre les mains. Et que Jésus fait ce lien entre leur aveuglement et la dureté de leur cœur. Et donc, par là, on disait que, dans le fond, tout le monde est aveugle, mais à différents niveaux. Tout le monde a besoin que leurs yeux soient ouverts, à différents degrés, et que c'est seulement le Seigneur qui peut faire cette œuvre, cette transformation dans leur vie. On a vu que la semaine dernière que la vision, Jésus tend à l'amplifier, mais également à la préciser, dans lequel on voit qu'il commence à annoncer ses souffrances, qu'il commence à annoncer sa mort, commence à annoncer sa résurrection. Donc, il va un peu plus loin. Déjà, la semaine avant, on avait vu la déclaration sur Jésus. On a vu la déclaration que Pierre a faite par rapport à Jésus et la déclaration que Jésus a faite par rapport à l'Église. Et par la suite, on voit que Jésus amplifie cette vision-là du Messie, veut ouvrir les yeux de ses disciples sur l'identité, mais aussi le mandat du Messie. Le Messie n'était pas un guerrier, un homme politique, un grand homme de guerre qui va se lever, qui va rétablir le royaume d'Israël en chassant les Romains, en chassant les Grecs, en chassant les Syriens et tout le monde. En venant avec une vision céleste du Messie, non pas avec une vision juive. Et que le fait d'amplifier, le fait de préciser la vision est venu choquer les Juifs, est venu choquer les disciples. Et il y en a un qui a pris la parole et a dit, « Ben non, Seigneur, tu ne peux pas mourir. Ça ne va pas arriver. Ça ne se peut pas que cela arrive. Non, Seigneur, pas toi, tu ne mourras pas. » Et que là, dans le fond, il y a eu une réprimande. Le Seigneur l'a réprimandé. Et ce qu'on voulait dire aussi la semaine dernière, c'est que Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour notre propre plaisir. Dieu ne nous ouvre pas les yeux pour qu'il y ait l'effet « waouh » puis qu'on dise « oh waouh Dieu, waouh, c'est précieux ». Combien de fois on devient tout excité quand il y a des révélations, quand Dieu nous ouvre les yeux, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il y ait par la suite une réponse de foi, une réponse d'obéissance. Dieu, tout ce qu'il dit, il y a un propos. Ce n'est pas juste pour notre divertissement, ni pour notre plaisir. Et d'où l'importance de ne pas être oublié de la parole, de ne pas juste l'écouter, l'entendre, et dès qu'on quitte, dès qu'on ferme l'ordinateur, ou dès qu'on quitte ce lieu, bien qu'on ait oublié la parole. À ce moment-là, il n'y a aucun effet qui se fait, il n'y a aucun travail, il n'y a aucune transformation. On reste dans notre aveuglement, même en étant à l'Église, même en servant, on peut rester pendant longtemps dans un même état avec une vision très faible et très floue aussi de Jésus et de l'ensemble de son plan et de son œuvre. Donc, en voyant la réaction aussi de Pierre, qui lui et des disciples qui, dans le fond, ont été choqués, on voit que la vision de Dieu, plutôt la pensée de Dieu, est une pensée qui est complètement différente à la pensée humaine. Et que la pensée humaine, et dans les paroles même de Jésus, dit que les pensées humaines ne peuvent pas concevoir les choses de Dieu. Donc, ce n'est pas avec nos yeux humains, ce n'est pas avec notre vision humaine du monde, de la vie, que nous allons comprendre Dieu. Et c'est la réalité. Les gens ne comprennent pas Dieu, ne comprennent pas les choses de Dieu. Et combien de fois ils vont accuser Dieu de certaines choses qui se passent dans le monde. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris, ils sont aveugles sur qui est Dieu. Et leur pensée, leur raisonnement n'est pas capable de concevoir le plan de Dieu. Et on avait vu également qu'une pensée qui peut être remplie de bonnes vertus, de bonne volonté. Pierre avait aucune malice dans ce qu'il disait à Jésus. Il n'y avait aucune méchanceté dans son cœur. Il y avait au contraire de l'amour, de l'inquiétude envers Jésus. Il voulait pas lui tendre un piège. Il était de bonne volonté. Mais même les pensées remplies de bonne volonté, des pensées humaines remplies de bonne volonté, peuvent s'opposer catégoriquement à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas juste d'avoir une pensée positive. L'Évangile, ce n'est pas une pensée positive. Ce n'est pas de t'amener à penser positivement. Il y a des gens qui pensent que c'est ça l'Évangile, que c'est ça la vie chrétienne, c'est d'avoir un changement d'attitude face à des pensées, puis qu'on était négatif, on était grognon, on était né pessimiste par rapport à la vie, mais qu'avec Jésus, on devient tout à coup pessimiste. Non, on est plutôt positif. Ce n'est pas la pensée positive ici, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu qui sauve du péché, qui apporte la lumière, mais qui exige aussi, ou qui s'attend, qu'il y ait une réponse de foi, et une réponse également d'obéissance. Et le défi pour l'Église, c'est d'être l'Église, et de servir soit avec une pensée humaine, avec la meilleure pensée humaine, ou de servir avec en ayant une vision claire du plan de Dieu. Les deux vont avancer. Les deux vont réaliser des choses. Mais à un moment donné, celle qui avance avec un raisonnement humain, celle qui avance avec une pensée positive seulement, va être arrêtée, va s'arrêter. Elle pourra pas aller plus loin à un moment donné. Tandis que celle qui a une vision claire du plan de Dieu, celle qui continuellement se fait ouvrir les yeux davantage, se fait préciser davantage sa vision, mais va pouvoir avancer. Son champ d'action va pouvoir également se développer. Parce qu'on agit en fonction de ce qu'on est capable de voir. Si on a une vision limitée, on ne va pas faire grand-chose. Si on a un petit peu de lumière, on est dans le noir, on va faire des petits pas. Mais si on est capable de voir loin et voir que le plan est vaste devant nous, ben on va faire des grands pas. On va savoir qu'il n'y a pas de limite. Alors l'importance d'avoir une vision claire de ce que c'est le plan de Dieu. Et comment peut-on commencer à concevoir les choses de Dieu? Bien, on avait parlé que ça demande une consécration du cœur. Parce que le cœur est lié à la vision. Donc une consécration, un engagement de notre part, mais un engagement qui vient du cœur. Pour vivre pour Dieu. Donc, en prenant cette décision-là, on amène notre cœur entre les mains du potier. On amène notre cœur entre les mains du Seigneur et c'est là où il peut nous façonner. Et Dieu peut briser l'endurcissement du cœur. Dieu peut enlever les choses dans nos cœurs qui nous empêchent de bien voir, de clairement voir Jésus, de clairement voir la vie comme lui. Il l'a créé comme en lui il la conçoit. Et avoir un cœur comme celui du Seigneur également nous amène à être en prière, mais avoir aussi une attitude d'action de grâce, de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant. Un cœur qui est dur n'est pas reconnaissant, a de la misère à dire merci. Mais un cœur qui est humble, qui a été touché, changé par le Seigneur, c'est un cœur qui sera éternellement reconnaissant. Donc voilà en gros ce que nous avons vu la semaine dernière et c'est ce qui nous amène justement à cette déclaration où est-ce que Jésus, dans le fond, encore une fois, il ouvre la vision, il révèle quelque chose d'important pour nous et c'est ce qu'on va voir. Donc, on a déjà vu que, comme je l'ai dit en introduction, Jésus est en train d'ouvrir les yeux. Il a ouvert les yeux sur qui est Jésus. Il a ouvert les yeux sur
l'Église. Et là, il est en train d'ouvrir les yeux sur ce qu'est la vie du disciple. Et ces trois éléments-là constituent, dans le fond, le fondement du christianisme. Dans Marc, chapitre 8, 29, on voit là où ce que Pierre fait la déclaration. Il dit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il fait cette déclaration en disant, mais Jésus est la source de la vie, est le fondement. Et Jésus, par la suite, ben, on ne le voit pas dans Marc, mais quand on voit dans Matthieu, on voit que dans ce même événement, où est-ce que la déclaration de Jésus est révélée, Jésus lui ouvre les yeux sur l'Église et il dit, ben, sur cette déclaration-là, que Jésus-Christ est le Fils, et le Christ, loin, le Messie, sur cette déclaration-là, sur cette vérité-là, sur cette vision-là, Jésus bâtit son Église. Donc, il introduit l'Église, ou il ouvre les yeux des disciples sur l'existence de l'Église. Et ici, au verset 34, alors qu'il appelle la foule à se joindre aux disciples, eh bien, il leur dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'ils le suivent. Dans le fond, Jésus est en train d'ouvrir les yeux des disciples et de tout le monde sur ce qu'est la vie du disciple. Donc, c'est trois choses. Il y a trois choses ici que Jésus est en train d'ouvrir les yeux. Un, c'est sur lui-même, en tant que Messie, en tant que envoyé de Dieu pour souffrir, pour mourir et ressusciter. Deux, c'est l'Église, le corps de Christ. Et sa destinée, et sa portée. Et troisièmement, c'est la vie du disciple. Et si vous remarquez ces trois choses-là, comme je disais au début, ben c'est ce qu'on retrouve comme fondement, comme pilier de la chrétienté. Jésus-Christ, l'Église et le disciple. Le christianisme n'existe pas. Il n'y a pas de christianisme s'il n'y a pas de Jésus-Christ. Mais également, le christianisme, c'est la vie de l'Église. C'est le corps de Christ. Et le christianisme, c'est pas la vie d'un croyant. C'est pas la vie d'un sympathisant. Ce n'est pas la vie de quelqu'un qui est à la recherche d'une pensée positive. Non, c'est la vie d'un disciple. Le christianisme vit à travers le disciple, pas à travers un sympathisant ou un partisan. Il se vit pleinement à travers la vie d'hommes et de femmes qui s'engagent à suivre le Seigneur Jésus. Pas juste aller à l'église, chaque dimanche, s'asseoir, écouter un sermon, repartir, en pensant qu'ils ont fait leur travail, en pensant qu'ils sont corrects avec Jésus maintenant parce qu'ils sont nus. Ils ont fait l'effort de se lever un dimanche matin et de bien s'habiller pour venir à l'église et chanter quelques chants, saluer deux, trois personnes, faire une petite prière ici et là, et voilà, le travail est fait, christianisme, va de l'avant, l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu, alléluia. Non, c'est pas comme ça. On a besoin de Jésus-Christ dans le christianisme. Tu enlèves Jésus-Christ, il n'y a plus de christianisme. On a besoin de l'Église, parce que c'est l'Église qui porte l'œuvre, qui porte le message. Et ce message est porté par des hommes et des femmes qui ont pris l'engagement de suivre le Seigneur. Donc, vous voyez, tous sont aveugles, mais là, Jésus commence à ouvrir les yeux par rapport à Jésus, ouvrir les yeux par rapport à l'Église, et ouvrir les yeux par rapport à la vie du disciple. Ça suit un ordre.
Ça suit un ordre. Donc, le cœur, ce qui est au cœur de la foi chrétienne, eh bien, c'est une relation avec Jésus. C'est un engagement de donner sa vie à Dieu, mais d'avoir une relation, une communion, d'être ami avec le Seigneur. Mais c'est également une vie de communauté avec le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Et la communion est essentielle. Aujourd'hui, nous sommes affectés dans cette absence de communion ou dans cette communion virtuelle, restreinte, limitée. Mais la vérité est que la communion est importante. Le fait de rester en contact les uns avec les autres, de veiller les uns sur les autres, aujourd'hui, c'est encore plus important qu'avant. Et peut-être que cette pandémie va nous permettre de nous ouvrir les yeux sur l'importance de la communion, sur l'importance de veiller les uns sur les autres, de prendre soin les uns des autres. Il y a beaucoup de gens qu'on entend dire, et encore hier, lorsqu'on était à l'Assemblée générale, après la réunion, bon, on a laissé les caméras, les micros ouverts, et beaucoup de gens disaient, vous nous manquez, vous nous manquez. Et c'est vrai, aujourd'hui, on valorise cette relation-là. On valorise cette communion-là parce qu'on réalise qu'on ne l'a plus, ou on ne l'a pas comme on l'avait avant. Mais avant, peut-être qu'on ne la chérissait pas. Avant, peut-être, on voyait les gens à l'église et on prenait pour acquis ça. Et s'il y a quelque chose qui doit revenir fort, et s'il y a quelque chose où chez nous, il doit y avoir un changement, et je parle dans l'église en général, c'est au niveau de la communion. C'est au niveau de la communion dans le corps de Christ. De s'aider les uns les autres. L'église primitive, elle, prenait soin des uns des autres. Du fait dans un niveau, dans un engagement, dans un amour, au point qu'il n'y avait aucun indigent, il n'y avait personne qui était dans le besoin. Et Dieu se glorifiait. Et Dieu amenait plus d'âmes à l'Église. Donc la communion est importante dans le christianisme. Et le discipulat qui est quoi dans le fond? C'est une vie de foi, c'est une vie d'obéissance et c'est une vie de service. L'Évangile n'est pas porté, ou l'Évangile ne va pas avancer avec des gens, avec des simples croyants. Ne va pas avancer avec des partisans, ne va pas avancer avec des sympathisants. L'œuvre de Dieu va avancer avec des disciples, avec des gens qui prennent l'engagement de suivre le Seigneur, de le suivre jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui par rapport à la vie du disciple. Et l'ordre qu'on présente est important parce que c'est l'ordre que Jésus a établi dans ce qu'il est en train de faire dans chapitre 8. Et cet ordre est important parce que si on ne respecte pas cet ordre-là, bien ça crée du désordre. Si moi, je me place avant Jésus, bien... il va y avoir du désordre. Si je place mes intérêts, ma vie avant les intérêts de l'Église, du corps de Christ, également, il y a un désordre. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Parce que la Bible nous dit combien de fois, nous dit de considérer les autres comme supérieurs à nous, de prendre soin les uns des autres. Donc, si je veux vivre une vie comme telle, c'est parce que l'autre passe avant moi. Les intérêts de l'autre passent avant mes intérêts. Et moi, je viens après. Donc, Jésus, l'Église et le disciple. C'est un ordre qui est important pour que la bénédiction de Dieu, pour que la puissance de Dieu, pour que la parole de Dieu fasse tout son effet. Cet ordre est important. Mais ça commence dans chaque cœur, dans chaque cœur des enfants de Dieu. Donc, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'ils me suivent. Donc là, on rentre dans la vision du disciple. Là, Jésus va ouvrir nos yeux sur ce qu'est la vie du disciple. Premier point, c'est que Jésus appelle la foule à rejoindre ses disciples. C'est un détail, mais c'est un détail qui est important. Pourquoi? Parce que l'appel à devenir un disciple, l'appel à suivre Jésus, est un appel à tous. Est un appel à tous. L'Église est un endroit, l'Église est quelque chose pour tous. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé exclusivement à un certain groupe de personnes, à une certaine ethnie. Non. Jésus n'a jamais eu un message élitiste. Il a invité à tous. S'il y a quelqu'un qui veut le suivre, juif, grec, riche, pauvre, homme, femme, si quelqu'un veut venir. Et l'autre point important, c'est que il parle de suivre Jésus et il dit si quelqu'un veut suivre Jésus. Et là, on comprend que c'est une base volontaire. Personne n'est forcé et personne ne doit être forcé à suivre Jésus. Si quelqu'un est forcé à prendre une décision, aux yeux de Dieu, cette décision-là, elle n'est pas valable. Parce que Jésus dit « si quelqu'un veut ». Donc, c'est une base, c'est une décision qui est libre et qui est personnelle. On ne peut pas l'imposer. Les gens qui veulent imposer une religion sur la tête des autres, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Dieu ne travaille pas de cette façon-là. Le Seigneur ouvre la porte. Le Seigneur envoie l'invitation. Mais le Seigneur ne te tord pas le bras pour que tu rentres. Et il va tordre le bras de personne pour qu'il le suive. Donc il dit, si quelqu'un veut. Et de là, on comprend que c'est une décision qui est libre et qui est personnelle. Chacun de nous avons cette liberté, avons cette possibilité-là de décider si nous voulons suivre le Seigneur ou non. Si nous voulons vivre une vie comme Jésus. Si nous voulons faire de Jésus le centre de notre vie ou non. On ne peut pas l'imposer. On ne peut pas forcer quelqu'un. Et on va encore moins essayer de manipuler les gens pour qu'ils viennent à Christ. Ce n'est pas la méthode de Dieu. C'est une invitation qui est ouverte à tous. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, il dit qu'il renonce à lui-même. Le terme « renoncer » en grec, c'est « aparneomai », qui veut dire « renier ». C'est quand même assez fort comme verbe, comme terme, parce que ça veut dire, dans le fond, de renoncer à soi-même, c'est de se renier à soi-même. C'est de dire non à soi-même et de dire oui à Jésus. Et de ne pas juste le faire une fois, mais de le faire à tous les jours. C'est-à-dire de placer les intérêts de Dieu avant les intérêts personnels. Donc, en d'autres mots, c'est de renoncer à vivre une vie. Puis, c'est pas... Il y en a qui pensent que c'est de renoncer à la vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, ben là, tu n'as plus de vie parce que là, ben, tu es juste avec Dieu, tu es juste avec Jésus. Tu es juste à l'église maintenant, donc ta vie est plate, ou tu n'as plus de vie, là. Tu ne fais plus rien, tu es juste là à l'église, et la prière, Jésus et la Bible. Et c'est faux. Il n'y a rien de plus riche, de plus comme vie, de plus pleine qu'avoir Jésus. De plus enrichissante et glorieuse qu'avoir le Seigneur Jésus. Sauf que la différence, c'est que on renonce à vivre une vie basée, centrée sur nos désirs, sur nos besoins, sur nous-mêmes.
comme Jésus, nous décidons de vivre une vie qui va faire la différence pour les autres. Une vie qui va être basée sur la volonté de Dieu, sur ce que le Seigneur voudra faire avec nous. Donc, en d'autres mots, ne plus regarder son nombril. Ne plus avoir... Et ça, c'est une belle image parce que on parle de vision, on parle d'avoir les yeux ouverts, de regarder. Une personne qui est centrée sur lui-même, c'est comme une personne que sa vision, son regard est sur son nombril. Je veux dire, si ton regard, ta vision est portée sur ton nombril, tu vois juste ça. Tu vois juste ta bedaine. Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Et Martin Luther avait cette façon de l'exprimer que devenir un disciple, dans le fond, c'est un changement de position dans la vie. C'est un redressement dans la vie parce qu'on change de posture. On a été toute notre vie, puis on peut être toute notre vie à l'église en train de regarder notre nombril. Mais lorsqu'on décide de suivre Christ, c'est un redressement parce qu'on décide d'abandonner, de plus regarder notre nombril. De regarder vers là où ce que le Seigneur voudra nous amener. Donc, c'est un changement de posture. C'est un redressement de la vie de quelqu'un. Et ça, c'est le genre de redressement qui est bon et qui est nécessaire aussi. Parce qu'une vie courbée sur ses propres besoins, sa propre vie, ça rend à la fin des gens malades. Et ce n'est pas la vie. Mais lorsqu'on décide de suivre le Seigneur, il y a ce redressement qui se fait dans notre vie. Quand on décide de suivre le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se remettent à sa place dans notre vie. Presque naturellement, presque automatiquement. Il y a des choses qui partent dans notre vie. Il y a des choses qui s'enlèvent de notre vie lorsqu'on prend la décision de suivre. Pourquoi? Parce que c'est un redressement. C'est une correction naturelle, si on peut dire, qui s'opère, spirituelle également. Mais le fait de prendre cette décision-là amène un correctif qui est sain et qui est nécessaire pour l'être humain. Et renoncer à soi-même, renier une vie basée sur ses propres besoins, bien ça va nous amener ou ça nous amène à déclarer ce que Paul a dit aux Galates. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus le « je ». Ce n'est plus le « je » que j'affiche, que je travaille plus pour le jeu. Je ne vis plus pour le jeu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ma vie sert à Christ. À travers moi, Christ peut faire ce qu'il veut. À travers moi, Christ peut continuer son travail, œuvrer son ministère. Combien de fois on dit, ah, tu sais, c'est mon ministère, mon don, mon appel. Au fait, il n'y a rien qui est à nous. C'est Christ. C'est Christ qui œuvre en nous. Christ va vouloir manifester en toi les dons qu'il jugera nécessaires. Christ va exercer à travers toi les ministères qu'il jugera nécessaires. C'est lui qui est le Seigneur. Et c'est lui qui donne, c'est lui qui répartit. Selon son plan et selon sa volonté. Donc, ce qui s'attend de nous, c'est qu'on puisse dire comme Paul, ben, ce n'est plus moi qui vis, je ne vis plus pour mes propres intérêts, mais je vis pour les intérêts de Christ. Parce que j'ai été crucifié, c'est-à-dire que je suis mort à ma chair, je suis mort à mes passions, je ne vis plus pour ça. Je suis mort à ça. Aujourd'hui, je vis pour Dieu.
Je veux mener une vie qui est agréable à Dieu. Je veux mener une vie qui aura du sens aux yeux de Dieu. Je veux mener une vie qui va être utile à Dieu. Donc, Seigneur, voici ma vie, voici mon corps, voici mes mains, voici ma bouche, voici mes finances, Seigneur, voici mes biens, voici mon temps. Il est à toi. Utilise-le et dirige-moi, Seigneur, comme tu le veux. On parle de ça, là. Et on poursuit dans ce verset. Donc, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qu'est-ce que ça veut dire, se charger de sa croix? Dans toutes ces années-là que je viens à l'église, que j'entends des prédications, j'en ai entendu de toutes sortes, des explications par rapport à qu'est-ce que ça veut dire se charger de sa croix. Il y en a qui pensent que ça y est, c'est une vie de misère et de souffrance et de difficulté et de saignement, on va saigner là. Bon, on est rendu chrétien, on va suivre le Seigneur là, ça va être une vie de torture, de difficulté, on va se traîner par terre, mais on va quand même venir à l'église et on va prêcher la victoire et on va annoncer la bonne nouvelle, l'amour, mais en fond, nous, on va être en train de souffrir et de vivre un martyr jusqu'à ce que le Seigneur vienne, et le plus tôt, Seigneur, que tu viens, le mieux ce sera. Il y a eu toutes sortes de définitions, toutes sortes d'illustrations qu'on a données par rapport à c'est quoi se charger de sa croix. Mais il faut voir Jésus. Pour comprendre se charger de sa croix, il faut comprendre ce que Jésus a fait lorsque lui a porté la sienne. Et dans le fond, il n'a pas porté la sienne, il a porté la mienne. Et il a porté la tienne. Il a porté la croix de toute l'humanité. C'était pas lui le criminel, c'était nous. C'était pas lui le pécheur. C'était pas lui l'impie. C'était nous. Mais lui a porté notre croix. Il a porté notre fardeau. Il a porté notre souffrance. Il a porté notre culpabilité. Il n'a pas été gêné d'être associé avec notre souffrance. Il n'a pas été timide dans sa façon de s'identifier avec notre punition, avec les conséquences du péché. Et ça, ça doit nous parler. Parce que Jésus n'a pas porté sa croix. Jésus a porté ma croix. Et il a porté la tienne. Et donc, si moi, je dois porter ma croix, eh bien, quelle est ma croix dans ce cas-là? Si Jésus a porté la mienne, moi, je ne porterai pas la mienne. Alors, quelle est ma croix? Cette croix peut représenter beaucoup de visages. Avoir beaucoup de visages, cette croix-là, dans la vie. Mais lorsqu'on décide de suivre le Seigneur, on décide également de porter les fardeaux des uns des autres. Lorsqu'on décide de suivre le Seigneur, on décide de prendre la croix de d'autres, de servir d'autres, de souffrir pour d'autres, de payer le prix pour d'autres. À chaque fois qu'on fait ça pour la gloire de Dieu, à chaque fois qu'on fait ça pour le bien de quelqu'un, dans le nom de Jésus, on est en train de porter notre croix. Ça peut être une situation de santé, ça peut être une épreuve
Mais qu'à travers cette épreuve-là, on touche des gens. À travers cette épreuve-là, des vies sont touchées, des vies sont changées. Et on porte une croix. Parce que ça nous permet de faire la différence dans la vie d'une personne, comme Jésus a fait la différence dans notre vie. Donc je répète, Jésus s'est chargé de ma croix. Sa croix, c'était la mienne. Alors quelle sera la mienne? Jésus s'est chargé de ta croix. Quelle sera la tienne aujourd'hui? Je pense que c'est une très bonne question à poser au Seigneur. Et vous savez, on n'a pas besoin de la chercher, notre croix. Elle vient par elle-même. Pour toute personne qui prend cet engagement-là de suivre le Seigneur, la croix va suivre. Et peut-être qu'on ne réalisera pas au début qu'on est en train de porter une croix. Mais à un moment donné, on va s'en rendre compte. Et à un moment donné, le Seigneur va nous ouvrir les yeux. Et on va réaliser que la croix que nous sommes en train de porter, ce n'est pas notre croix, mais c'est le fardeau de quelqu'un. C'est le besoin de quelqu'un. C'est la souffrance d'une personne. C'est quand tu payes le prix, tu fais l'effort, tu te déplaces, tu prends de ton argent que tu avais peut-être préparé pour tes loisirs, et tu coupes ça et tu vas, tu fais l'épicerie pour quelqu'un qui est dans le besoin. Tu prends ton temps, tu mets ton masque, tu te mets dans la file d'attente pour entrer dans le supermarché. Tu passes 45 minutes, une heure, tu fais une épicerie, tu attends à la caisse pour payer. Tu retournes dans le froid, dans la neige, tu déblais ta voiture. Tu pourrais être au chaud chez toi, en train de boire un chocolat chaud et de regarder ton émission préférée, mais voilà que tu es dans une nuit d'hiver, en train de servir quelqu'un. Peut-être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu n'as jamais rencontré de ta vie. Mais tu payes un prix. Tu payes un prix pour qu'une personne soit bénie. Je pense que ça, c'est porter sa croix. Et il le dit de porter sa croix tous les jours. C'est qu'à tous les jours, on peut faire cela, porter le fardeau de quelqu'un. Venir aux besoins de quelqu'un dans le nom de Jésus. Jésus était quelqu'un qui était rempli de compassion. Et la compassion se définit comment? Se définit par le fait qu'une personne qui a la compassion va rentrer dans la souffrance de l'autre. La compassion, c'est pas juste, ah, tu sais quoi, je vais faire une prière, puis écoute ma prière. Je vais sortir toutes les paroles les plus sophistiquées du vocabulaire, parce qu'en plus, je suis bon au Scrabble. Fait que là, tu vas avoir tous les mots que je vais te sortir de l'encyclopédie Britannica, whatever. Puis Dieu n'aura pas le choix, il va répondre à ta prière. La compassion, c'est pas juste lever une prière et dire, ah, Seigneur, tu vois telle personne, aide-la, Seigneur. Merci, bonsoir. La compassion, c'est pas juste conseiller quelqu'un et dire, t'sais, je te conseille de faire ci, de faire ça, je te conseille d'aller là-bas, je te conseille de prier, je te conseille de lire Romains, et après ça, tu liras les psaumes. La compassion, c'est de rentrer dans la souffrance de cette personne-là. La compassion, c'est de porter le fardeau de cette personne-là. Et c'est là où est-ce qu'on porte la croix. C'est là où est-ce que ça devient une croix pour nous. Donc, ce n'est pas l'image de « Oh my God, je vais mourir, je vais souffrir, je vais être dans l'agonie pendant 30 ans, Dieu m'appelle au ministère » ou peu importe même, je dis « Ok, je vais suivre le Seigneur, mais on dit que ça va être difficile, ça va être pénible, je vais souffrir, je vais pleurer tous les jours. » Je vais être dans l'affliction, je vais avoir la langue à terre, je vais être malheureux, mais pas grave, il y a l'espérance de la vie éternelle, puis au ciel, on va oublier tout ça. Non, mes amis. L'Église est l'organisation la plus glorieuse, la plus précieuse, la plus prestigieuse qu'il y a dans le monde, qu'il y a sur la face de la terre. Les promesses qui sont dans la parole de Dieu font en sorte qu'aujourd'hui, nous, nous sommes la tête, on n'est pas la queue. On est appelé à influencer. On est la lumière du monde. Ce n'est pas en ayant une face de meurtrie qu'on va attirer le monde. C'est en ayant la gloire de Christ qui reflète. C'est avoir la joie de Jésus, c'est avoir l'amour de Jésus qui reflète à travers notre visage, qui va attirer les gens. Donc, faisons attention sur qu'est-ce qu'on comprend. Et que le Seigneur vraiment puisse nous ouvrir les yeux sur ce qu'est vraiment se charger de sa croix. Parce que il y a un monde qui croule présentement sous de lourds fardeaux. Et ils ont besoin de Dieu. Je ne pensais pas le dire, mais bon, je le partage parce que je pense que c'est important de le voir. Cette semaine, ma femme et moi, on est allés apporter des denrées à une personne inconnue, à une personne qui est dans un statut réfugié ici au Canada, qui est dans le néant total parce que à cause de la pandémie, bien des choses au point de vue administratif ont juste été repoussées et les gens n'ont aucune visibilité sur leur avenir. Ils ne savent rien. Ils doivent vivre tous les jours de cette façon-là. Et cette femme qu'on est allé rencontrer a un enfant de 2 ans. Et par l'entremise de contacts, on avait à cœur de bénir quelqu'un. Et le Seigneur nous a permis d'aller voir cette femme. Et on est allé la rencontrer. On a fait une épicerie. Mon budget de la semaine pour l'épicerie, il a sauté. J'étais allé 2 fois acheter des choses. Et on est allé porter des vêtements. On est allé porter des choses à cette femme. Et on a pu voir le besoin, la détresse. Et on a amené une Bible. Et tout était beau. Merci, on a échangé un petit peu. Mais du moment où on lui a dit, on apporte une Bible avec nous, pour toi. Parce qu'on sait que les denrées, c'est beau. Les vivres, la nourriture, c'est bien, mais ton âme a besoin aussi. Ton cœur a besoin. Surtout avec la situation dans laquelle tu te trouves. Et cette femme, juste avec ces paroles-là, a été touchée. On n'a même pas mentionné un verset de la Bible. On n'a même pas dit Jésus. Je ne sais même pas si elle avait déjà un historique avec Dieu ou avec la parole de Dieu ou avec la foi chrétienne. J'en ai aucune idée. Mais le fait est que ça nous a coûté une soirée. Ça nous a coûté une coupe d'heure de préparer tout ça, de rentrer en contact avec cette femme et de passer du temps avec elle. Et ça n'a pas été une soirée perdue. Au contraire, je pense qu'il y a une semence. Et je sais que le Seigneur va faire un travail dans la vie de cette personne-là. Donc, ce n'est pas difficile. On peut tous, dans la situation, dans le niveau dans lequel on se trouve, on peut tous porter la croix de quelqu'un et de la porter en Jésus, pour faire la différence dans la vie de quelqu'un. Donc, entrer dans la souffrance des autres. Et par la suite, suivre Jésus. Donc, il dit qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus? On pourrait également, là, partir dans de grandes études, faire des séminaires sur c'est quoi suivre Jésus, les cinq clés, les 4 étapes, les 10 révélations, les 34 lois spirituelles. Moi, j'en retiens juste 3, qui sont quand même essentielles et qui sont quand même
je pense, importante et fondamentale. Suivre Jésus, c'est prendre la décision d'être un imitateur de Jésus. C'est de suivre les pas, de faire ce qu'il a fait, de vivre comme il a vécu, d'avoir la compassion qu'il a eue, de faire les bonnes œuvres qu'il a faites, d'avoir le même message que Jésus avait, d'être un imitateur, de payer le prix, même quand on est fatigué, et s'il faut, d'aller jusqu'à la mort, d'être un imitateur de Christ. La deuxième, c'est de garder ses commandements, de garder sa parole, de garder ses enseignements, et de les vivre, de les mettre en pratique. Et troisièmement, c'est de rechercher le royaume de Dieu, rechercher les intérêts du royaume de Dieu avant toute autre chose, avant le besoin de s'habiller, avant les cadeaux, avant tellement de choses qu'il y a dans le monde qui nous distrait, de rechercher le royaume de Dieu. Et il y a un beau verset qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 21, qui nous dit, bien, et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Une grande partie de la souffrance du disciple, une grande partie de la souffrance de la vie chrétienne, c'est parce qu'on renonce à soi-même. C'est pas parce qu'on a des problèmes. Parce que des problèmes, il y en a dans le monde. C'est pas parce qu'on a des problèmes. La plus grande souffrance vient du fait qu'on renonce à soi-même. Vient du fait qu'on décide de payer un prix. Et ça fait mal. Ça fait mal à l'ego. Ça fait mal à l'orgueil. Ça fait mal au moi, au je, à la chair. Ça fait mal. Lorsque vous renoncez à vous-même, la chair souffre. La chair souffre. Lorsqu'on décide de renoncer à soi-même, à un plaisir ou à quelque chose pour servir quelqu'un, la chair a mal. Ça fait mal. Une souffrance, là. Et c'est l'exemple, le modèle que Jésus nous a laissé pour qu'on puisse suivre ses traces. Suivre Jésus, c'est dans le fond une vie qui est engagée. Ça peut pas être une vie religieuse ou une vie routinière basée sur une routine de que je viens le dimanche. Maintenant, mettons, si on prend le contexte pandémique, tous les matins à 8h30, je suis là. Non, je suis là à 8h20, comme ça, je peux peut-être échanger un petit peu avec le pasteur. Je suis là les lundis, je suis là les mercredis, je suis là les vendredis, je suis là les dimanches. On est là. Mais il n'y a aucun changement, il n'y a aucune réponse de foi, il n'y a aucune réponse à l'obéissance. On est juste content d'avoir pu écouter une parole, puis parce que ça apaise notre conscience. Beaucoup de gens viennent à l'église pour apaiser une conscience, pas pour transformer une vie, pour apaiser une conscience. Donc, qu'est-ce que toi tu recherches? Est-ce que tu suis les bénédictions matinales? Est-ce que tu suis les enseignements, la parole pour apaiser une conscience? Ou parce que tu veux vraiment suivre le Seigneur Jésus? Ce que Jésus est en train de dire et est en train d'ouvrir les yeux sur cette vérité-là fondamentale du christianisme, c'est que Jésus veut une réponse de vie de personnes qui s'engagent, qui se dédient, qui sont consacrées. On le voit dans le modèle de l'Ancien Testament où est-ce qu'il y avait eu une tribu entière, la tribu de Lévi, qui était dédiée à Dieu, qui était consacré à Dieu. Et aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous une race élue. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, encore là, nous sommes consacrés. Nous sommes dédiés à Dieu. Ça n'a pas changé. Cette réponse-là, si dans l'Ancien Testament, c'était quasiment imposé, je veux dire, si tu es né, tu fais partie de cette tribu-là, ben, tu n'as pas le choix. C'est ton destin. Alors qu'aujourd'hui, c'est une invitation à tous. Mais il veut, mais la réponse, si la réponse elle est de suivre le Seigneur, ben suivons-le. Et suivons-le comme la parole de Dieu nous dit de le faire.
ne soyons pas sélectifs dans ce qu'on décide de prendre et ce qu'on décide de laisser par rapport à la vie du disciple. Ça ne marche pas. Dieu est en train de mettre la base de ce qu'est Christ, de ce qu'est l'Église, de ce qu'est le disciple, pour qu'il n'y ait aucune confusion, ce qu'il n'y ait aucun brouillard par rapport à ça, que ce soit clair, la vision soit claire. Qu'est-ce qu'un disciple? Qu'est-ce que l'Église? Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ? Donc, c'est une vie qui est engagée. Une vie qui est consacrée. Rien de moins. Rien de moins. Engagé à être un imitateur de Christ. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, nous lisons « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Il ne dit pas « des imitateurs de Dieu », comme s'il y en aurait plusieurs alternatives. Il dit « Devenez donc les ». C'est-à-dire, lorsqu'on va vous voir, on va dire « Ben voici les imitateurs ». Voici ceux qui se définissent, expriment par leur vie, par leur témoignage, par leur conduite, par leur parole, par leur geste, ce qu'est être comme Dieu. Semblable à Dieu. Premièrement, dans le caractère, dans l'intégrité. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, devenez imitateurs de Dieu à l'exemple de Christ. C'est simple, c'est clair. Il n'y a rien à rajouter. Une vie engagée pour garder ses commandements, garder sa parole. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de garder la parole, de garder les commandements du Seigneur Jésus. Ce n'est pas juste dans l'Ancien Testament qu'on nous exhorte et qu'on nous dit de garder les commandements de Dieu. Dans le Nouveau Testament également, c'est quelque chose qui reste, de garder les commandements. Et dans dans Jean chapitre 8, verset 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire si vous gardez mes commandements, alors vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, le fait de venir à l'Église, tu peux venir à l'Église et pas être dans la parole de Dieu. Tu peux venir à l'Église et pas garder les commandements de Dieu. Donc, le fait de venir à l'Église ne fait pas de toi un disciple. Le fait de suivre tous les enseignements en ligne ne fait pas de toi un disciple non plus. C'est une vie engagée à garder les commandements de Dieu. Et troisième point dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quelle autre chose? Toutes les autres choses. Ah ouais? Ouais. Toutes les autres choses. Est-ce que ça inclut toutes les autres choses? Eh oui, mon ami. Ça inclut toutes les autres choses. Tout le reste. Mais premièrement, rechercher le royaume et la justice de Dieu. Donc, un engagement aussi, là, de rechercher premièrement les intérêts du royaume de Dieu. Est-ce que nous servons, est-ce que nous vivons dans la pensée, l'intérêt du royaume de Dieu? Ce sont des très bonnes questions à se poser. Je pense que ça nous permet également d'ouvrir les yeux. Encore une fois, la parole de Dieu nous ouvre les yeux. C'est incroyable. La parole de Dieu nous ouvre les yeux sur notre vie, sur notre cœur, sur notre niveau d'engagement. Où est-ce qu'on se situe, là? Où est-ce que toi, en cette fin d'année, tu te situes par rapport à ton engagement? Es-tu vraiment un disciple? Suis-je vraiment un disciple? Ça, c'est la question à se poser, là. Parce que le vrai service, le christianisme, va se vivre, va avancer à travers de vrais disciples. Pas de sympathisants, pas des gens qui sont adeptes à une ou deux notions, mais qui, pour le reste, pour eux autres, c'est pas applicable. On choisit pas qu'est-ce qu'on prend. On choisit pas qu'est-ce qu'on prend puis qu'est-ce qu'on laisse de côté, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on décide de suivre Jésus, on prend tout. Tout ce qu'il y a dans Jésus. Et tout ce qu'il nous demande. Et on le suit et on le sert. Et on le fait d'une façon engagée, consacrée. Si on veut vraiment faire la différence. Beaucoup de gens, beaucoup d'églises font des choses, mais l'impact n'est pas vraiment là. Pour plusieurs raisons. Mais une de ces raisons-là, c'est que c'est pas fait avec une vie engagée. Combien de fois des gens viennent nous voir pour nous dire on devrait faire ci, on devrait faire ça, on devrait se lancer là, on devrait faire ci. Et moi, souvent, la réponse que j'ai, je dis tu as entièrement raison. Pardon. Je joue avec le bouchon en même temps. Tu as entièrement raison. Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu t'engages à le faire? Et là, ils disparaissent. Et je leur dis, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que si je te dis, oui, on s'engage, je m'engage avec toi pour faire ça, dans 3 semaines, toi, tu n'es plus là. Puis c'est moi qui reste avec le problème ou avec le fardeau. Ça ne marche pas. On ne peut pas être des gens émotifs. Les chrétiens montagnes russes, ça ne marche pas. C'est pas comme ça. Pierre était comme ça. Et Pierre a dû vivre un brisement très, très profond dans sa vie. Là. A dû passer par un échec très, très lourd, très dur dans sa vie. Pour que sa vie, son cœur soit changé. Et le Seigneur l'a récupéré. Le Seigneur l'a utilisé puissamment. Mais avant ça, Pierre était, était yo-yo. Et il y a beaucoup de chrétiens yo-yo aujourd'hui ils ont une vision claire. Hein? Ils ont la vision de c'est quoi le problème dans l'Église et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer le monde. Mais l'engagement est où? La vie de disciple, elle est où? L'œuvre de Dieu se fait à travers la vie de gens qui sont engagés. Donc, bien-aimés, engagez-vous. Je vous exhorte. Engagez-vous. Soyez pas des sympathisants. Soyez pas des simples adeptes. Ne regardez pas la parade de loin. Entrez dans la parade. Faites partie de l'armée du Seigneur. Prenez la décision de vous engager, de vivre une vie consacrée à lui. Il y a beaucoup de besoins dans le monde. Et les besoins vont juste grandir de plus en plus. Mais on n'est pas là pour faire, nous, des bonnes œuvres sociales. On va plus loin que ça. Notre travail va plus loin que ça. Et c'est pour ça que pour aller plus loin, il faut des vies engagées. Il faut des vies consacrées. Donc, que le Seigneur nous ouvre les yeux sur notre vraie condition en tant que disciples. Sommes-nous vraiment disciples de Dieu ou non? Ça, je pense, c'est la question du jour. La question de la semaine, du mercredi, parce que demain, à bénédiction matinale, sûrement qu'il va y avoir une autre réflexion. Mais la question du jour, où est-ce qu'on se situe, là? Sommes-nous engagés, là? Ou, quand ça me tente, quand ça me tente moins, bof, je m'invente des excuses. Aïe, aïe, aïe. Donc, en résumé, le point central du chapitre, c'est que on est tous aveugles à un différent degré, on a tous besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Et Dieu nous ouvre les yeux à travers sa parole. Je l'ai déjà dit, je continue à le dire, à chaque fois que vous venez à la parole, à chaque fois que Dieu vous parle dans une prédication, dans un enseignement, dans une exhortation, dans une bénédiction matinale, Dieu est en train de vous toucher les yeux pour vous enlever peu à peu ce qui est en train d'obstruer votre vision.
Mais cet état-là de votre vision va aller en s'améliorant si votre cœur va aussi en changeant, suit un processus de transformation. Si le cœur reste insensible, dur, face à la parole de Dieu, face à ce que Dieu est en train de faire, notre vision le sera également. Donc, important pour cela. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu ouvre les yeux, est en train d'ouvrir les yeux, nous ouvrir les yeux sur les fondements. Ce qui est en train d'arriver ici, comme je vous avais dit aussi à un moment donné, Dieu est en train de travailler sur différents plans. Et ce n'est pas juste sur un plan physique, mais aussi spirituel à différents niveaux. Et là, il est en train d'exprimer, ou plutôt de dévoiler qui est Christ, de dévoiler qui est l'Église, et de dévoiler qui est le disciple, ou du moins la vie du disciple. Et que ça, c'est le fondement du christianisme. Donc, Dieu est en train de nous ouvrir les yeux sur le fondement de la foi chrétienne, qui est, dans le fond, une relation, une vie en relation avec Jésus, une vie de communion avec l'Église, avec le corps de Christ. Et vous savez, nous avons une Église multiethnique qui est un petit avant-goût du ciel. Donc, profitons-en. C'est une bénédiction, le fait que ce soit diversifié culturellement chez nous. C'est une richesse. C'est une richesse. Profitons-en. Apprenez de vos bien-aimés qui viennent d'un autre continent. Partagez avec eux. Priez avec eux. Restez pas juste dans votre petit cocon régional. Ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières. Pour qu'il y ait vraiment une communion dans le corps de Christ qui soit forte et solide. Et également, ce qu'on retrouve dans ce fondement-là, c'est une vie de foi et d'obéissance. C'est la vie du disciple. Une vie de service. Par rapport à la vision sur ce qu'est la vie du disciple, eh bien, ce qu'on comprend, c'est que c'est un appel à tous. Et c'est un appel, c'est une invitation. Personne n'est forcé de suivre Jésus. Quiconque veut. Si quelqu'un veut, c'est possible. C'est une décision libre et personnelle. C'est une décision à renoncer à une vie basée sur soi-même. Et c'est la décision de se charger de sa croix. Une croix qui peut avoir plusieurs formes, plusieurs visages. Mais une chose est sûre, bien-aimé, Jésus a porté ma croix. Alors, quelle est la croix que je dois porter? Je le saurai lorsque je serai engagé à suivre le Seigneur. Il y en a peut-être qui vont dire, ben, tu sais quoi, je vais attendre en premier. Seigneur, c'est quoi ma croix? Puis, à ce moment-là, je vais décider si je m'engage ou non. Désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. La vie de foi, c'est la vie par la foi. On fait confiance au Seigneur. Et suivre Jésus pourrait, on pourrait faire des études et des études et des études à chaque semaine sur suivre Jésus, mais si on peut retenir trois éléments. La première, c'est vivre une vie engagée à être un imitateur de Christ. C'est vivre une vie engagée à garder les commandements de Dieu. Et l'autre point, c'est vivre une vie qui va rechercher premièrement le royaume de Dieu. Donc, je pense que ça résume pas mal la leçon pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide à vraiment avoir une vision claire. Je pense, et ma prière, c'est qu'à cette fin d'année, qu'on puisse avoir une vision plus claire, plus amplifiée par rapport au début de cette année. Alors que la perception du monde se brouille avec toutes les incertitudes, la vision de l'Église doit s'éclaircir et doit se clarifier et s'amplifier. Parce que Dieu veut faire de grandes choses. Et Dieu veut le faire à travers son Église. Et à travers la vie de ses disciples. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Joyeuse fête. Oui. Prenez du temps pour vous reposer. Comme on l'a entendu dimanche. Célébrons sagement. N'oublions pas que nous honorons Christ et que Christ doit faire partie de nos célébrations, du temps que nous allons passer en famille, plus restreinte, mais que Christ soit honoré. Et pas seulement sa vie, pas seulement sa naissance, mais aussi sa mort et son engagement qu'il a eu envers nous. Rappelons-nous de tout ça et soyons reconnaissants envers le Seigneur. Donc, on va prier. Éternel Dieu, on te remercie pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, parce que tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur, tu fais de grandes choses. Et encore une fois, Seigneur, ce soir, tu nous ouvres les yeux. Tu clarifies la vision. Et on voit, Seigneur, à quel point on a besoin, Seigneur, que notre vision, notre vue soit claire, soit touchée par toi, par ta parole, comme cet aveugle de Bethsaïda. Oui, Seigneur, on a besoin que tu touches notre cœur. On a besoin que tu touches, Seigneur, notre vue. Bénis ton peuple. Ce soir, Seigneur, bénis tes enfants. Que nous puissions, Seigneur, avoir une vue claire sur notre vrai état en tant que disciples. Sommes-nous vraiment des disciples? Vivons-nous, Seigneur, engagés à te suivre? Ou sommes-nous, Seigneur, juste en train de passer le temps, ou pire encore, d'être comme les pharisiens et juste jouer les acteurs, de très mauvais acteurs? Aide-nous, Seigneur, à être dans la vérité, à nous dépouiller, Seigneur, de tout ce qui nous empêche de vivre une vie engagée pour toi. Et Seigneur, de vivre pleinement pour toi, de porter la croix qui nous est destinée, qui peut, Seigneur, changer d'une journée à l'autre, mais Seigneur, qui va pour toucher des vies, qui va pour faire la différence et avoir un impact, Seigneur, dans la vie de quelqu'un qui a besoin de toi. Nous te prions, Seigneur, de nous garder ce soir, demain, Seigneur, dans les prochains jours. Garde ton peuple, Seigneur. Garde ton peuple. Et bénis-les, Seigneur, en ton nom précieux, Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, n'oubliez pas, demain matin, 8h30, bénédiction matinale avec le pasteur Florent. Que le Seigneur continue à vous ouvrir les yeux et continue à parler à vos cœurs. Bonne soirée et je vous dis shalom.